top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes,
you are fake news.
Il est 9h40 et c'est une nouvelle semaine dans Storm qui démarre sur France Inter.
Vous êtes en direct, allez-y.
Gilets jaunes, acte 9. Samedi, blocage du centre d'impression de Lyon Républicaine. Blocage des livraisons du journal du centre. Blocage du dépôt d'Anzin, de la Voix du Nord. 20 000 journaux non distribués. À Toulouse, une journaliste de la Dépêche du Midi, accusée et menacée, pardonnez-moi, de viol. À Toulon, deux reporters de l'AFP réfugiés dans un restaurant pour échapper à des menaces physiques. À Marseille, vive tension autour d'une GRI de France 3. À Rouen, place de l'Hôtel de Ville, vers midi et demi, au milieu d'une foule, deux journalistes de LCI et leurs deux agents de sécurité pris dans une meute haineuse. Insultes, huées, jets de projectiles et puis coups de pied et coups de poing. Les images de ce déchaînement sont glaçantes. Week-end noir pour la liberté et le droit à l'information.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Fabien Lamias.
Bonjour Sonia De Villers.
Soyez le bienvenu sur
Merci
France
de votre
Inter.
Invitation.
Vous êtes directeur général adjoint de LCI, chaîne info du groupe TF1. Vous êtes à mes côtés à la maison de la radio. On va vous donner la parole dans un instant, mais je vous propose tout de suite de rejoindre le directeur de général de La Voix du Nord, qui est au siège du journal à Lille. Bonjour Gabriel Darcourt.
Bonjour.
Voilà, en direct par téléphone sur France Inter. Une première question d'abord. Hier soir, on apprenait dans votre journal et suite à une dépêche également, un incendie qui a pris au pied de vos locaux à Valenciennes. Il y avait quatre journalistes à ce moment-là à l'intérieur des bureaux. Vous annoncez porter plainte, donc il n'y a pas de doute. C'est un incendie volontaire ?
Ah oui, il n'y a aucun doute, ouais. Ah oui, c'est un... Un feu de poubelle qui a été déclaré tout à fait volontairement. D'ailleurs, ils ont vu une personne partir en courant. Mm-hmm. Donc oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein.
Voilà. Alors des livraisons de journaux en région bloquées par des mouvements de gilets jaunes. Ça a commencé dès le mois de décembre avec Ouest France, puis début janvier avec l'Est Républicain. Ça s'est multiplié ce week-end. Je le disais, vous, c'est votre dépôt dans un tout. Toujours dans la région de Valenciennes, 20 000 journaux qui n'ont pu être distribués. Mais il faut raconter ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que les manifestants menaçaient carrément de brûler les camions.
Oui, oui, oui. Notre camion a été bloqué au moment où il accédait au dépôt. Hein. Il y avait des palettes en feu, il y avait une trentaine de gilets jaunes qui étaient... plutôt menaçant et qui effectivement lui ont dit que s'il forçait le barrage, il lui ferait son affaire, qu'il brûlerait le camion et les journaux. Voilà, ça s'est passé
les
à 3h du matin.
Les forces sont intervenues pour débloquer la situation.
Ouais, tout à fait. Mais malgré cela, la distribution n'a pas pu être faite parce que ensuite nos vendeurs colporteurs qui assurent la distribution du journal tous les matins et qui étaient présents sur place. Ont été l'objet de eux aussi de menaces et d'intimidations. Et vous comprenez bien que quand chacun ensuite est censé partir avec son paquet de journaux sous le bras pour faire la distribution dans le quartier, mais qu'il y a des gens qui rôdent et qui les menacent, à un moment ça devient compliqué de faire son boulot. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de distribution.
La semaine précédente, Gabriel Darcourt, toujours dans la région de Valenciennes, votre agence locale a été la cible de slogans extrêmement virulents, de slogans anti-médias extrêmement virulents.
Ouais, tout à fait. On a des images d'ailleurs de nos journalistes qui sont dans l'agence et qui filment cette foule. Oh, cette foule là encore, je sais pas, doit y avoir une cinquantaine de personnes, mais avec des slogans haineux et qui sont clairement dirigés contre la Voix du Nord, contre les journalistes, entre autres.
Ouais. Est-ce que vous recevez le soutien ? Est-ce que les élus locaux s'expriment sur ce qui se passe autour de la Voix du Nord depuis quelques semaines ? Je vous pose la question parce que il y a plusieurs élus Front National dans votre région qui s'opposent régulièrement et qui critiquent régulièrement le travail de vos équipes.
Écoutez, on a certains élus locaux effectivement qui ne font pas de leur soutien. On en a d'autres et je parle là des extrêmes qui sont plus discrets mais qui sans doute s'inscrivent dans dans la droite ligne de ce que disent leurs responsables, si on peut parler responsables nationaux, qui à force de désigner les médias à la vindicte populaire ou d'insulter les journalistes, créent les conditions d'une situation comme celle-là. Voilà, donc forcément leurs représentants locaux sont plus discrets, doivent être peut-être un peu gênés, je ne sais pas.
Quel bilan vous pouvez tirer, Gabriel Darcourt, de ces deux mois de mouvements sociaux? D'abord parce que les points de vente, les kiosques et les marchands de journaux ont été énormément fermés tous les week-ends, et donc ça forcément la presse en a beaucoup pâti, et en même temps il y avait une énorme demande d'informations de proximité partout en France, dans votre région comme les autres. Où est-ce qu'il y avait des barrages, où est-ce qu'il y avait des blocages, où est-ce qu'on pouvait circuler ou non?
Il y a un peu tout ça en même temps. Il y a des conditions de distribution et de commercialisation qui sont bien entendu difficiles. Oui. Et à côté de ça, comme vous le dites, il y a un besoin de compréhension,
oui,
d'une part, un besoin de connaissance de ce qui se passe quand vous avez une forte mobilisation le samedi, avec éventuellement des violences, etc. Et puis il y a un très fort besoin d'informations pratiques,
oui,
parce que la presse régionale, elle est là pour là aussi. Et par exemple, nos pics d'audience sur le web, ils sont plus liés à des informations d'ordre pratique, mm-hmm, sur où sont les blocages, quelles sont les infos pour le week-end, les problèmes de circulation, etc. Les pics sont là.
Un dernier mot, Gabriel Darcourt, comment vous sentez vos équipes, vos journalistes sur le terrain? Ça les affecte?
Bien sûr. Si vous voulez, on le serait à moins. À partir du moment où, quand vous exercez votre métier, vous êtes menacé et mis en danger personnellement, c'est fragilisant. Pour autant, la détermination des uns et des autres, elle est totale. On est vraiment dans un moment, je trouve, où on a plus que jamais besoin d'une presse régionale qui est là au cœur de ces territoires dont on sait qu'ils sont parfois fragilisés, et aux côtés de ces personnes qui ont besoin d'écoute et de soutien. C'est fondamentalement le boulot de la presse régionale, donc on compte le faire plus que jamais. Mais je ne vous cache pas que c'est des conditions un peu difficiles, et puis ça a tendance à s'accumuler ces derniers jours.
Merci beaucoup, Gabriel Darcourt, directeur général de La Voix du Nord, qui était avec nous depuis Lille.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Rouen, place de l'Hôtel de Ville, samedi vers midi et demi, deux journalistes travaillant pour LCI, chacun accompagné d'un agent de sécurité, sont attaqués par des manifestants en meute. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que de parler d'une meute. Au milieu de la foule, ça va très très vite. L'un des deux journalistes, Hugo Blais, a raconté en détail ce qui s'est passé. La vidéo est très spectaculaire, mais forcément la séquence est confuse. À Libération, je vous y renvoie, si vous voulez lire en détail son témoignage. Ça commence par des insultes, des huées, des jets de projectiles, et puis ça dégénère. L'un des deux agents de sécurité qui a pris le plus de coups est littéralement recroquevillé à terre, même si les coups visaient au départ les reporters eux-mêmes. À mes côtés, Fabien Napias, qui est le directeur général de LCI. Quelle leçon vous tirez? Évidemment, ça va être ma question de cette séquence. Comment étaient repérables ces journalistes? Simplement par le fait qu'ils avaient avec eux une caméra?
Oui, absolument. Le fait qu'ils étaient sur le terrain avec une caméra portée par Hugo Blaise, le JRI, et un micro aux mains de Julien Garel, notre reporter, rédacteur. Effectivement,
avec logo ou sans logo, ou est-ce que, comme vos confrères de BFM TV, vous masquez les logos?
En l'occurrence, là, en l'espèce, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il y avait, je crois, des logos. En tout cas, on n'a pas systématiquement masqué les logos. De toute façon, dans les faits, qu'on soit LCI ou tout autre, aujourd'hui, on le voit et on l'entend, on a entendu les témoignages absolument glaçant de la du responsable de la Voix du Nord à l'instant à votre antenne. Ce sont les journalistes qui sont visés, quels qu'ils soient. Donc quand ils ont une caméra ou un micro, ils sont repérables, ce sont des instruments qui se voient. Ce n'est pas tant le média qui est visé que la profession en soi et les journalistes eux-mêmes.
Ce qui devient quand même un problème, le port du micro, le port de la caméra, quand on veut pénétrer une foule et couvrir des événements et des manifestations, ça devient un véritable problème, Fabien Damias.
Bah malheureusement, on voit aujourd'hui que c'est un facteur de danger. C'est invraisemblable parce que pendant des années, les questions sur est-ce qu'on envoie tel ou tel reporter à tel endroit, on se les est toujours posées. On connaît ça, vous connaissez ça à Inter, on connaît ça à LCI et partout ailleurs. Sauf qu'on se les pose quand il s'agit de savoir si on va envoyer une équipe en Irak, en Syrie, sur un théâtre de guerre. Aujourd'hui, ces questions, on se les pose quand on envoie une équipe à Rouen, à Bourges ou Place de l'Étoile. C'est quand même une situation absolument aberrante et qui, je le crois, en France, est du jamais vu.
Même si on avait senti pendant les manifestations autour de la loi travail une vive comme ça inimitié pour les journalistes et qui se concentrait beaucoup autour notamment des micros et des caméras et il y avait une vraie différence entre les journalistes de presse écrite, les photographes et ceux qui travaillaient pour les médias audiovisuels. Est-ce que vous n'êtes pas pris dans une situation impossible, Fabien Damias, c'est-à-dire d'un côté protéger vos équipes,
bien
évidemment,
sûr,
c'est votre rôle, et de l'autre côté, est-ce que vous pouvez renoncer à couvrir des événements qui sont couverts par vos concurrents?
Moi j'ai une inclinaison naturelle qui est il faut toujours en toutes circonstances faire son métier. Il faut toujours, nous on fait ce métier qui consiste à rapporter ce que l'on voit, à le décrire, à le questionner, à l'expliquer et à le mettre en perspective. Et je pense que tous les événements, quels qu'ils soient, heureux, joyeux, dramatiques, violents, émouvants, méritent d'être rapportés. C'est la signification du job. Donc il faut continuer à le faire. Ça, c'est mon inclinaison naturelle. Encore faut-il le faire.
La concurrence qui s'exerce entre quatre chaînes d'infos qui veulent chacune être sur l'événement, parce que sinon, il y a risque de zapping, il y a risque que le téléspectateur aille voir à côté ce qui se passe.
Oui, mais non, mais la concurrence, elle existe. Ce serait une folie que de le nier, et puis ce serait surtout absolument ridicule, mais elle existe dans tout un tas de domaines d'information. Là, le sujet, le cœur du sujet, c'est que cette crise que traverse le pays en ce moment est absolument, elle est profonde, elle prend ses racines bien plus loin, sans doute, que dans le prix de l'essence ou les 80 km/h ou que sais-je encore, donc elle est au cœur de notre société, elle mérite d'être analysée, elle mérite d'être couverte, à la limite que les autres le fassent ou non, finalement, peu importe. Moi, je suis convaincu que c'est un sujet profond, que c'est le sujet dominant en ce moment et qu'il faut le traiter d'une manière ou d'une autre. Après, les questions qui se posent aujourd'hui, c'est pas ce que fait la concurrence, c'est plutôt de quelle manière doit-on le faire et de quelle manière peut-on le faire? Ça, ce sont les sujets qui nous animent.
Tweet hier de Noëlle Lenoir qui se présente elle-même comme avocate, conseillère d'État, ancienne ministre et première femme juge constitutionnelle. Je la cite. Les journalistes de LCI agressés par les Gilets jaunes sont responsables de ce qu'ils subissent, mais aussi de ce qu'ils font subir aux forces de l'ordre jour après jour. Ils ont donné à longueur d'antenne une tribune à l'édification de la violence, de la provocation au meurtre, de l'insulte et de la bêtise.
Bêtise, ça c'est le dernier mot que vous venez d'employer. Par respect, je ne vais peut-être pas le qualifier ce que je viens d'entendre, mais enfin c'est choquant et indigne. C'est une ancienne ministre qui, je crois, a été membre du Conseil constitutionnel, donc chargée de faire respecter les libertés publiques et le droit, et qui donc tolère ou légitime la violence, la brutalité, les coups, les blessures faites à qui que ce soit, à des journalistes ou à qui que ce soit, mais en l'espace, c'est des journalistes. Honnêtement, ça n'appelle à rien comme... Enfin, le seul commentaire que j'ai, c'est que c'est profondément choquant. Alors, il paraît qu'elle a rétropédalé depuis. Le fait est qu'elle l'a écrit, que j'ai pas grand-chose à en dire, c'est assez lamentable.
Vous avez...
Et honnêtement, franchement, honteux.
Repréciser que, en effet, vos journalistes sont accompagnés par des agents de sécurité, qui d'ailleurs ont joué leur rôle, parce que finalement, ils ont été relativement préservés.
Ils ont joué leur rôle, et c'est en protégeant, en l'espèce, notre équipe à Rouen, et aussi une autre équipe qui a été agressée dans le 8e arrondissement samedi, pas loin de la place de l'Étoile, et c'est en jouant ce rôle-là que ces agents ont été molestés. En l'occurrence, Jérôme s'est fait casser le nez. Oui, absolument.
Voilà, c'est eux qui prennent les coups. Le fait d'être accompagné par des agents de sécurité, c'est assez inédit, vous le dites, quand on couvre, quand on couvre des événements en France. Est-ce que ça change le rapport, pour un journaliste, à ce qu'il filme? Est-ce que ça modifie aussi la façon dont un journaliste est perçu par les manifestants et par les gens qu'il vient filmer?
Ça change... Par nature, ça change les choses, puisque Le reporter, en général, à part son agra, son stylo, ou son micro ou sa caméra, il n'a rien d'autre avec lui. Là, le fait d'avoir des agents de sécurité, c'est une nécessité imposée par la situation. C'est malheureux de le dire, mais c'est un fait. Est-ce que, oui, ça change forcément la nature des choses sur le terrain, puisque les journalistes ne sont plus seuls, ils sont accompagnés, que les manifestants et les personnes qui sont interrogées le voient, donc elles peuvent le percevoir aussi négativement.
C'est ça.
En assimilant certaines fois, c'est ce que m'ont dit les agents de sécurité qui travaillent avec nous et que je considère comme étant notre équipe aujourd'hui.
Bien sûr.
En étant assimilés à des policiers, à des forces de l'ordre, en concentrant encore plus de violence, mais là on est dans un cercle vicieux, parce qu'il n'est pas question d'exposer nos reporters sans forces de sécurité, et en même temps les forces de sécurité attisent une forme de colère, de brutalité et de haine de la part des manifestants. Donc il n'y a pas de bonne réponse, mais oui, pour répondre à votre question, Sonia de Villers, ça change la nature du travail sur le terrain,
cercle
c'est une évidence.
Cercle vicieux, dites-vous. La semaine dernière, Jean-Michel Apathy, éditorialiste sur Europe 1, mais également sur LCI, se fait alpaguer, vidéo à l'appui par un type qui se présente comme un journaliste gilet jaune. Ça se passe en fait à la sortie de vos locaux. Jean-Michel Apathy se dirige vers sa voiture. Un extrait de la vidéo qui a été diffusée.
Quelle est votre intolérance? Mais j'ai le droit de vivre ou pas?
D'accord, mais vous avez le droit d'être millionnaire aussi, mais à ce moment-là,
je ne le suis pas.
Ça vous classe dans une catégorie à part.
Et si je vous dis que je ne le suis pas, vous ne le croyez pas, parce que ça casse votre schéma.
Non,
et vous l'aimez pas.
Mais moi, je me souviens d'une émission sur Canal Plus où vous ne vouliez pas dire votre salaire.
Oui, je suis. Mais c'est mon problème, ça.
Alors, je fais ce que je veux. Mais vous avez un problème sur votre salaire.
Mais non, je vais céder à votre dictature.
Voilà, Jean-Michel Apathy, alpagué donc par un type qu'il ne connaît absolument pas. Ouais. Il se laisse filmer. D'ailleurs, il garde vraiment son sang-froid jusqu'au
bout.
Oui,
c'est remarquable, Jean-Michel, dans cette séquence dont vous venez diffuser l'extrait là. Cette capacité à dialoguer, à répondre, à pas s'emporter, à être courageux. Hein.
Oui, oui.
Parce que quelqu'un qui arrive, un type qui arrive, qui vous met un téléphone sous le nez, qui est intrusif, qui vous suit, qui vous raccompagne jusqu'à votre voiture, c'est physiquement inquiétant. C'est physiquement inquiétant. Je trouve que Apathy s'en tire remarquablement bien.
Alors, justement, la place laissée aux éditeurs dont fait partie Jean-Michel Apathy, sur les chaînes d'info, attise aussi la critique. Et d'ailleurs, parfois, ce sont même les journalistes qui sont sur le terrain, qui le disent. Ça nous nuit parce que ça donne l'image de médias, de gens de médias qui ne sortent jamais de leur bureau et de leur studio, qui sont coupés des réalités, qui sont coupés des gens. Comment, justement, est-ce que vous réfléchissez à ça, à l'équilibre entre ce qui est filmé sur le terrain et ce qui est dit en studio en guise d'analyse et de commentaire?
Oui, mais c'est vraiment essentiel de la façon dont on entend traiter... les gilets jaunes, parce qu'on entend beaucoup, oh là là, est-ce qu'on fait trop, est-ce qu'on en fait trop sur les gilets jaunes, est-ce qu'on les traite trop, etc. Moi, ce que je vous disais, c'est que je pense que c'est un phénomène majeur, profond dans la société, et qu'il faut y accorder une grande part, voire la quasi-totalité de notre antenne aujourd'hui. On voit comme ça secoue le pays, on en parle encore aujourd'hui, on en parlait sur votre antenne avec la lettre du président de la République. Après, comment le traiter? Il y a le terrain, il y a ce qu'on monte sur le terrain. Il y a malheureusement les manifestations et les déchaînements de violence dont il est normal de les montrer, parce que si on ne le montre pas, pour répondre à je ne sais quelle pression ou indignation, qui va le montrer dans ce cas-là? Les réseaux sociaux, ça tournera en boucle. Alors on dira que les chaînes de télé le font pas parce qu'elles sont à la solde du pouvoir. Non, notre métier, c'est de tout montrer. Après, c'est de le filtrer, de l'expertiser. C'est là où nous, en tout cas à LCI, on essaye d'apporter une singularité de traitement qui consiste justement à organiser en permanence sur nos plateaux, dans nos studios, des débats entre différents protagonistes. Alors il y a certes des gilets jaunes, mais il n'y a pas que des gilets jaunes en plateau, loin s'en faut, des économistes, des éditorialistes de tous horizons politiques, des responsables économiques, patronaux, c'est ce qui a fondé d'ailleurs l'émission qu'on a lancée avec Thierry Tuilier et David Pujadas, la grande explication.
On avait mis un tas de protagonistes. Vous avez été les premiers à consacrer une soirée spéciale.
Absolument, et en mettant des gens d'horizons très différents et avec des postures et des présupposés idéologiques extrêmement différents. Et je pense que le traitement, il mérite d'être plein et entier, à cette condition qu'il se fasse par le biais du débat, de l'approfondissement et de l'expertise. Il faut comprendre ce qui est en train d'arriver à ce pays. Il faut comprendre.
Fabien Lamiaz, directeur général de LCI, qui était au micro de l'Instant M après les violences, extrêmes violences exercées à l'encontre de ces journalistes ce week-end.